Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40.
Et aujourd'hui, on prend la direction de l'Espace des Sciences à Rennes, qui accueille depuis le 24 septembre et jusqu'au 9 mars une nouvelle exposition temporaire. Microbiote, c'est son nom, s'inspire du livre Le charme discret de l'intestin de Julia et Jill Enders. Et la promesse, eh bien, c'est de tout comprendre sur ce qu'on appelait autrefois flore intestinale, un univers microscopique qui a encore des secrets à livrer auprès des chercheurs. Le tarif plein pour l'expo, c'est 7 euros. Et je précise qu'un mardi de l'Espace des Sciences a été organisé sur ce sujet au mois de septembre. La conférence en compagnie de la bactériologue Geneviève Héry-Arnaud est à retrouver sur la page YouTube de l'Espace des Sciences. Allez, reportage.
Une fois qu'elle a atterri dans notre estomac, la viande fraîchement mâchée agit comme un maître de cérémonie et donne à nos intestins un signal clair. Ça y est, la fête peut commencer.
Alors, l'Espace des Sciences, c'est un lieu de culture scientifique. C'est un lieu qui présente en fait en permanence trois expositions. Alors, Christelle Goni, je suis responsable des expositions à l'Espace des Sciences. Donc le laboratoire de Merlin, bien connu des Rennais, qu'on voit de l'extérieur par les vitres. Au premier étage, l'exposition Incroyable Cerveau. Juste au-dessus encore, le planétarium. Donc ce n'est pas vraiment une exposition, mais donc le planétarium. Et puis au rez-de-chaussée, les expositions temporaires, donc qui changent tous les 6 mois. Et là, on ouvre en ce moment l'exposition sur le microbiote.
Qui est à voir jusque...
jusqu'en mars.
Comment on peut raconter comment s'est construite cette exposition, d'où elle tire son inspiration?
Alors le titre de l'exposition, donc c'est donc Microbiote, et c'est une exposition qui a été faite d'après le livre de Julia Enders, Le charme discret de l'intestin. Tout sur cet organe mal aimé. Donc en fait, elle a écrit ce livre donc il y a déjà un petit moment, une petite dizaine d'années, en partant du constat qu'en fait on avait beaucoup de tabous sur tout ce qui était la digestion, en particulier les intestins. Et en fait, elle a exploré un petit peu cet organe mal aimé et essayé de découvrir ses secrets. Et en particulier, on y découvre, donc outre vraiment le mécanisme de la digestion, les différents organes, de la bouche à l'anus, on y découvre aussi dans cette exposition un peuple méconnu qui est en symbiose avec nous et qui sont toutes ces bactéries, ces virus, ces archées, ces champignons qui vivent dans notre, on va dire, en grande majorité dans notre gros intestin et qui s'appelle le microbiote, qu'on appelait avant la flore intestinale.
Comment est-ce que cette exposition est construite, organisée ?
Alors, c'est une exposition de la Cité des Sciences de Paris. Et donc, elle a déjà tourné pas mal dans le monde. Il en existe plusieurs exemplaires. Et donc, elle s'est construite vraiment suivant le livre. Donc, la première partie de l'exposition va vraiment parler de la digestion. Donc, on revient un peu sur des choses qui peuvent paraître acquises, mais qui ne le sont pas tant que ça. On découvre des choses étonnantes, comme par exemple pouvoir positionner son système digestif face à un miroir et se rendre compte que, par exemple, l'estomac, on dit souvent « j'ai mal au ventre » en touchant le bas de son ventre, en croyant que c'est l'estomac. L'estomac est bien plus haut que ça. Donc, on découvre des choses comme ça, ou par exemple, la longueur de ses intestins, plus de 7 mètres. Donc, voilà, c'est des petites choses, des manipulations, des vidéos, des jeux interactifs qui permettent de découvrir tout ça. Alors la première partie est vraiment sur la digestion. La deuxième partie va vraiment entamer le microbiote. Donc vraiment, qu'est-ce qui compose cette anciennement appelée flore intestinale? Et la dernière partie, donc il y a 3 parties, la dernière partie va parler un peu plus du bien-être, justement, comment faire pour chouchouter ses intestins.
Ce sont l'acide gastrique et les enzymes qui vont contribuer à décomposer les protéines de la viande. Celles-ci restent donc un long moment dans l'estomac, et nous procure une sensation de satiété des heures après le repas. Il se peut que nous ayons envie de sucreries à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que notre corps ne reçoit pas de sucre tant que le bol alimentaire reste dans l'estomac. L'intestin grêle s'impatiente. Et il n'aurait rien contre un petit morceau de chocolat pour se mettre à danser comme John Travolta.
Est-ce qu'ensuite on peut parcourir l'exposition puis s'arrêter sur différents points que vous me décrivez un petit peu ? Qu'est-ce que sont ces pots remplis de liquide bleu ?
Alors, ces pots symbolisent en fait une armoire à pharmacie. Donc on est dans l'armoire à pharmacie de la salive. Donc là, en fait, on a voulu expliquer que la digestion commence dès la bouche. On pense souvent à ces mâchoires, à ces dents qui écrasent, parce qu'en fait, le but de la digestion, c'est de réussir à transformer un aliment, admettons une banane, puisqu'on parle beaucoup de bananes dans l'atelier d'animation, une banane en quelque chose qui va pouvoir passer dans le sang. Donc il faut bien que ça soit divisé, 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 séparé, 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 jusqu'à obtenir vraiment les nutriments, les petites particules qui vont pouvoir passer dans le sang. Bien, ça commence dans la bouche avec les dents, mais aussi avec la salive qui contient des produits chimiques qui vont aider à la décomposition des aliments. Et donc cette armoire à pharmacie présente, on va dire, des bocaux qui permettent de découvrir des éléments chimiques qui composent la salive. Et donc de découvrir aussi qu'en fait on en produit quand même 1 litre par jour. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien celui-là, mais après... C'est l'échelle de Bristol. Alors c'est une échelle très sérieuse qui mesure en fait la consistance des caca, des crottes. Donc en fait, on a reproduit ici sur une table différentes formes de sel, les moulages, qui vont de l'échelle 1 à l'échelle 7, selon qu'elles sont très sèches, constipées, on va dire, à selon à ce qu'elles sont très liquides, on va dire une diarrhée. Donc ça paraît un petit peu tabou, mais c'est une vraie échelle qui est utilisée en médecine. On a eu des médecins ici qui étaient tout contents de retrouver ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont ils ont beaucoup de mal à parler avec des patients, et encore nous, en France, on va dire assez ouvert sur le sujet, mais aux États-Unis par exemple, ils ont beaucoup beaucoup de mal à faire des examens parce que les gens ne veulent pas qu'on examine leurs excréments, hein, leurs selles. Et donc du coup, cette échelle qui va de 1 à 6 va nous permettre de découvrir qu'en fait, il faut qu'au minimum on ait une digestion qui dure 10 heures et ça peut aller jusqu'à 100 heures si ça se passe très très mal. Donc en fait, on va dire pour une selle, quand on est en forme, où on est à peu près au milieu, on est entre 10 heures et 100 heures, on va dire 50-60 heures de digestion. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme.
Et donc on dit qu'une digestion saine devrait donner un résultat de type 3 ou 4, donc
à
mi-chemin.
C'est très clair.
Voilà.
Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui peut permettre aussi aux gens de s'encourager à l'auto-diagnostic. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on peut se dire, oh c'est sale, etc. Mais regardez, observez ces selles, c'est déjà un premier diagnostic de sa santé. C'est quelque chose de très important. Et maintenant, à partir de l'âge de 50 ans, je peux vous le dire puisque je viens de le passer, on reçoit un kit pour faire une ponction de ces selles et c'est gratuit et on l'envoie par la poste et on a en retour un dépistage du cancer colorectal. Les selles sont un moyen très important d'avoir un diagnostic sur l'intérieur de ses intestins. Et tout le reste de l'exposition va vraiment expliquer qu'on les utilise aussi pour faire d'autres diagnostics.
Donc là, on était vraiment en bout de chaîne, quoi, et dans une partie plutôt sur des teintes bleutées. Et donc là, on va entrer dans un espace où on change presque de code couleur.
On n'est plus ce rose, on est à l'intérieur. En fait, là, on va rentrer à l'intérieur de, on va dire, la fin du système digestif, donc le gros intestin, puis le côlon. Et donc là, on entre à l'endroit où il y a, on va dire, 90% de nos bactéries, du microbiote. Alors le microbiote, on en a dans d'autres organes que l'intestin. Mais c'est celui-là qui est le plus important, donc il a été plus mis en valeur. Mais on a découvert, on le sait depuis longtemps, mais on le redécouvre de plus en plus récemment, qu'on a aussi un microbiote vaginal pour les femmes, buccal, intestinal. Donc en fait, on a vraiment des bactéries partout dans notre corps. Et ce sont des auxiliaires de notre digestion au niveau de l'intestin. C'est-à-dire qu'elles nous aident à digérer des aliments que nous ne pourrions pas digérer, nous ne pourrions pas les assimiler, et de cette digestion, elles produisent des éléments dont nous nous servons. Donc en fait, elles produisent vraiment quelque chose, vitamines, etc., qu'on utilise au jour le jour.
Là, il y a la comparaison qui est faite de comparer l'intestin à une forêt où vivraient des milliards d'organismes exotiques, des bactéries, des levures, des virus, etc. Comment on explique le lien entre l'état de ce microbiote dans notre intestin et puis notre état de santé? Ça marche comment?
En fait, on va comparer ça un peu. D'ailleurs, il y a un film qui le fait dans l'exposition, à un jardin. Donc un jardin qui est, on va dire, un jardin en bonne santé, il va y avoir beaucoup d'espèces différentes. Et donc, plus les espèces seront diversifiées et plus le jardin sera riche. Si vous n'avez que des carottes, eh ben, c'est pas très riche. Si vous n'avez que de la salade, c'est pas très riche. Plus vous avez d'espèces différentes et plus elles sont nombreuses, donc plus vous allez avoir un microbiote sain et riche. Parce qu'il faut savoir qu'une des grandes actions du microbiote, c'est tout simplement de prendre la place et d'empêcher les mauvaises bactéries de s'installer. Donc, si on a un microbiote diversifié, on prend la place physiquement des mauvaises bactéries, mais en plus, on empêche la prévalence de certaines bactéries sur d'autres. Parce qu'on dit mauvaises et bonnes bactéries, mais ce n'est pas tout à fait ça. Les bonnes et les mauvaises bactéries, des fois les bonnes peuvent devenir mauvaises, si en fait elles se développent de façon trop importante.
C'est une question d'équilibre.
Voilà, c'est exactement ça. Donc vraiment, on peut comparer ça à un jardin. Plus c'est riche, plus c'est équilibré, mieux c'est. Et donc, on peut aussi parler des antibiotiques, par exemple, qui peuvent faire du mal au microbiote. C'est un peu comme on utilise un désherbant dans un jardin. Si on en met trop, on va tuer les mauvaises herbes, mais on va aussi tuer les bonnes herbes. Et bien, les antibiotiques, c'est un peu ça.
L'équilibre de ce microbiote dont on parle, il a ensuite une influence sur plein de choses, le poids, les allergies, le système immunitaire et même parfois le comportement.
Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment le microbiote est devenu de plus en plus intéressant pour les chercheurs parce qu'on a des pistes pour comprendre qu'il influence de plus en plus de maladies. Ce qui est assez normal puisqu'il est au centre en fait, de notre production de nutriments. Et donc du coup, on commence à suspecter qu'il peut avoir effectivement des effets sur des maladies plus mentales ou sur des maladies métaboliques comme le diabète. Et donc il y a plein de recherches qui sont lancées là-dedans. Mais il faut se garder de prendre ça comme la solution miracle à tout. Maintenant, on parle beaucoup des prébiotiques ou des probiotiques comme si on allait pouvoir soigner tout avec ça. Mais comme c'est une question d'équilibre et d'individualité, chacun a son microbiote propre, il ne peut pas y avoir de solution clé en main pour tout le monde. Et la recherche, on est encore à ses balbutiements là-dessus. Donc oui, il y a des pistes de recherche extrêmement importantes, mais pour l'instant, on en est aux prémices. Donc là, on a 6 ou 7 bactéries superstars qu'on appelle. C'est-à-dire, on les a pris en exemple pour montrer un petit peu de cette diversité. Donc, il y en a certaines dont les noms sont connus, ici, avec ces petites moustaches, Escherichia coli. Alors, évidemment, les bactéries n'ont pas des yeux et des bras. Hein. Mais donc, Escherichia coli, c'est une de celles-là dont je vous parlais, qui peut être à la fois bonne et mauvaise. Si on en a trop, ça peut être une mauvaise bactérie. Et puis, il y a plusieurs souches, parce qu'à l'intérieur des bactéries, il y a des sous-espèces de bactéries. Et donc, il y en a d'autres qui sont, par exemple, comme celle-ci, Candidatus.
On m'appelle Candidatus. Personne ne sait encore rien de moi. Je suis toujours une bactérie inconnue. Qui sait, je suis peut-être capable de faire les choses les plus folles dans vos tripes. Comme vous rendre plus mince, plus gros, plus heureux, plus fatigué. Ou même vous aider à réfléchir. Mais voilà, les scientifiques n'ont pas encore réussi à totalement dresser mon portrait robot. À quoi je ressemble? Mystère. Comme beaucoup d'entre nous, je ne suis connue que par mes gènes. Et personne n'est encore parvenu à nous cultiver en dehors de l'intestin. Parmi nous, il y en a qui n'existent peut-être que chez une seule personne sur Terre. Et d'autres, au contraire, qui vivent dans l'intestin de la plupart des gens. Alors, j'ai un message pour les scientifiques. Soyez patients et continuez à chercher pour nous identifier.
Candidatus, on l'aborde pour parler d'un sujet très important.
Les bactéries superstars sont en rose.
C'est qu'on n'a pas accès à ces bactéries. Pourquoi ? Parce que l'intestin est un milieu anaérobie. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'oxygène. Donc ce sont pour la plupart des bactéries qui ne peuvent pas se développer quand il y a de l'oxygène. Or, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très difficile de faire des études sans oxygène. Donc en fait, la seule façon de connaître ces bactéries, c'était à partir, encore une fois, des fesses, de faire du séquençage métagénomique, donc il y a un film qui explique ça, pour connaître le contenu ADN de ces bactéries. Donc on ne les connaît pas physiquement, finalement, on les connaît par leur génome.
Avec quels aliments complétez-vous ce repas? Choisissez un aliment dans le bac et scannez-le. Une portion de 100 g de framboise apporte 6 g de fibres. Cette portion ne suffit pas à nourrir toutes les bactéries de votre microbiote. Soit vous scannez un autre aliment, soit vous vous rattraperez. Une portion de 100 g d'orange apporte 2 g de fibres.
La dernière partie, donc plutôt bleu clair, est une partie sur le bien-être intestinal. Donc quels sont les gestes au quotidien ou les petites actions qui peuvent faire en sorte qu'on agisse pour le bien-être de son microbiote. Les actions sont multiples, donc les petits conseils, c'est de manger sainement, varié, puisque le microbiote est varié et il lui faut de la variété, en particulier des fibres, des polyphénols, et puis faire du sport. Ça aussi, ça a été prouvé que c'est important sur le bien-être du microbiote.
Et donc, il y a aussi tout un mur avec quelques informations supplémentaires.
C'est ça, des petites astuces pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour aider son microbiote.
Donc, il est question d'allaitement maternel, d'ablation des amygdales ou encore de dentifrice.
Oui, parce que si on parle de l'allaitement maternel, et on va dire la naissance tout simplement, c'est le moment où le bébé va acquérir son microbiote. Donc, la naissance par voie basse, voilà, c'est assez important de le dire, fait que le bébé, au moment du passage par le col de l'utérus, par le vagin, et proche, on va dire, de l'anus de la maman, acquiert son microbiote. Et donc, il hérite du microbiote de sa maman. Et puis ensuite, par le pot à pot, avec son papa aussi, avec les animaux qu'il va fréquenter, la terre dans laquelle il va jouer. C'est pour ça qu'aussi, on parle d'essayer de limiter l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'il faut être propre, évidemment, limiter les bactéries, puisque c'est vrai qu'il y a des bactéries qui peuvent rendre malade. Mais il faut aussi se confronter à l'environnement extérieur.
Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on n'a pas dites? C'est vous qui me dites.
Il y a la transplantation fécale, les gens en entendent parler aussi. En fait, la transplantation fécale, de plus en plus, on peut en entendre parler comme une solution miracle à tout. J'ai une maladie, je vais me faire une transplantation fécale de quelqu'un qui est en bonne santé, et hop, ça va me guérir. Alors, il faut savoir qu'en fait, en France et dans tous les pays d'Europe, c'est extrêmement réglementé. La transplantation fécale ne peut avoir lieu que sur une seule infection, l'infection à Clostridioides difficile, qui est effectivement très grave, hein, c'est des diarrhées sanguines, ça peut conduire à la mort. Et là, effectivement, en cas de récidive, résistance aux antibiotiques, on va finir par traiter cette personne par transplantation fécale. Mais là, on va sélectionner extrêmement finement les donneurs, parce qu'il ne s'agit pas de transmettre à la personne une maladie tiers de cette personne. Donc, en fait, ce n'est que dans cette indication-là, et dans un cadre médical, qu'on peut faire la transplantation fécale. Mais comme il y a pas mal de sites internet ou de vidéos qui en parlent et qui essayent de montrer des gens qui font des recettes à la maison, on va dire,
de façon artisanale,
et ben ça peut donner une idée que c'est facile, que chacun peut le faire. Mais ça peut avoir des conséquences très graves. Et effectivement, la recherche, elle avance beaucoup là-dessus. Donc, en stade clinique, on étudie d'autres façons de soigner parce que c'est extrêmement puissant pour guérir, parce que c'est quand on fait une transplantation fécale à une personne qui a cette infection à Clostridioides difficile, ça peut guérir jusqu'à 85%.
Mais ce qui est rassurant pour nous, c'est que le microbiote évolue tous les jours, finalement. On peut manger très mal des produits ultra transformés pendant une journée. C'est pas ça qui va vraiment nous enlever tout notre microbiote, heureusement. On a quand même une capacité de résilience. Et en fait, en fonction de nos habitudes de vie, en fonction de notre environnement, etc., notre activité physique, eh bien, on peut faire évoluer notre microbiote. Et chacun et chacune d'entre nous en a un différent. Donc vraiment, ils ont retrouvé quelques bactéries communes dans chacun des humains, mais ça, c'est que quelques dizaines d'espèces de bactéries. Mais par contre, on a vraiment tout le reste individuel.
Comment ça fonctionne pour venir ici? On peut donc parcourir l'exposition, mais il y a aussi des animations qui sont pensées dans le prolongement?
C'est ça. En fait, on peut venir voir l'exposition tous les jours, du mardi au dimanche, à partir de 12h en semaine et à 14h le week-end. Et pendant les vacances scolaires, là, qui vont bientôt débuter, là, les vacances de la Toussaint, ça va être ouvert de 10h à 19h. Donc pour les vacances, on conseille vraiment de réserver, parce qu'il peut y avoir un peu de monde. Et pendant les vacances, il y a des animations pour toutes les visites qu'on peut faire. Il y a des mini-animations, ce qu'on appelle les anime flash, qui permettent de retrouver dans l'atelier d'animation le médiateur et d'échanger avec lui sur le contenu de l'exposition.
Curiosité, c'est fini. Retrouvez votre programme d'info locale du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 9h40. Et pour les podcasts, eh bien, il y a canalb.fr.